Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, peut-être faire le point là, sur la vaccination avec nos experts en logistique et nos experts en épidémiologie. Je suis très content d'avoir le Dr Arruda et M. Paré avec moi. Premièrement, je veux revenir sur la journée d'hier. Vous n'êtes pas sans savoir là, qu'on a eu un record de doses administrées hier, qui est impressionnant, là, 85 000 doses dans une journée. Je pense qu'on continue aussi d'avoir une solide performance avec nos pharmaciens, puis je veux les remercier. Ils contribuent vraiment à ce succès dans la vaccination. Mais je veux aussi remercier les Québécois qui ont répondu si positivement à la demande pour la vaccination avec AstraZeneca. C'est dans nos plus beaux rêves qu'on pensait avoir cette réponse-là des Québécois, puis je veux les remercier. En fait, hier, on a vacciné plus de 30 000 vaccins AstraZeneca qui ont été donnés hier aux Québécois. C'est vraiment un élan de solidarité. Puis je dis que c'est à cet élan-là, hier, qu'on a pu atteindre ce record-là. Mais j'aimerais le mentionner, comme plusieurs le réalisent, au fur et à mesure que les gens ont la chance d'aller en vaccination, je veux le dire à Daniel, puis à son équipe, puis à tout le réseau, là, je pense qu'on a vraiment raison d'être fiers de notre machine gouvernementale qui s'est ajustée à cet effort de vaccination-là. Moi, je pense que les Québécois peuvent être fiers de ce que le réseau est capable de performer en ce moment, puis je tiens à les remercier. Maintenant, bon, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment la question des groupes prioritaires. Bon, à présent, jusqu'à maintenant, vous vous rappelez qu'on avait ouvert la vaccination aux groupes 8 et 9. On a fait ça dans la dernière semaine. Le groupe 8, je le rappelle, ce sont vraiment les groupes qui ont des maladies chroniques, mais qui avaient spécifiquement besoin d'un suivi à l'hôpital. Maintenant, avant d'ouvrir à la population générale, puis étant donné les nouveaux vaccins de disponibles qu'on a, ce qui est la très bonne nouvelle, on a deux groupes que l'on peut considérer comme étant plus vulnérables, mais qui n'étaient pas inclus dans les annonces initiales qu'on a faites lors de la catégorie 8, puis qu'on peut prioriser maintenant. En fait, ce sont les personnes, puis ces deux groupes-là, ce sont les groupes qui ont des maladies chroniques qu'on appelle importantes, mais qui n'ont pas besoin d'un suivi à l'hôpital, pour être très clair. Mais c'est aussi les personnes handicapées qui ont une déficience soit physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Comme on a des nouveaux vaccins, et je le répète, particulièrement les nouveaux vaccins de Pfizer, avec des rehaussements chaque semaine au mois de mai et de juin, on peut maintenant, avec la recommandation de la santé publique, élargir à d'autres groupes vulnérables avant de passer à la population générale. Alors, on élargit maintenant le bassin de malades chroniques. Alors, ainsi, pour les malades chroniques que j'appelle importantes, on pense par exemple, puis je donne des exemples très pratiques, toutes les maladies respiratoires, les gens qui font du diabète et les personnes qui souffrent d'obésité. En fait, c'est des exemples que je donne. Il y a une liste qui est non exhaustive parce qu'il y en a plusieurs maladies chroniques, mais il y a une liste quand même détaillée. Puis je pense que la plupart des journalistes ont reçu cette liste-là qui est disponible sur notre site .ca. Puis tous les Québécois pourront contacter, prendre connaissance de cette liste-là dans les prochaines minutes. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on compte sur la solidarité des Québécois. Les personnes qui se trouvent dans ces catégories, vous vous reconnaissez. Puis ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce que on ne veut pas que les personnes qui sont sur place, dans nos centres de vaccination, viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on ne parle pas ici de mois, on parle ici de quelques semaines. Alors, pour nous, je pense que c'est une grosse annonce, c'est important. On a augmenté cette base-là. Donc, sur le bassin de Québécois qui ont une maladie chronique, on avait, lors de l'annonce de la première partie de la catégorie 8, on avait à peu près 200 000 personnes qui étaient impactées par ça, qui avaient été annoncées. Maintenant, on ajoute aujourd'hui, là, je vous dirais, au moins 300 000 personnes. 300 000 personnes qui ont des maladies chroniques importantes. Mais lorsqu'on ajoute aussi toutes les personnes de 60 ans et plus qu'on a déjà traitées, bien, c'est 500 000 et plus des maladies chroniques qu'on a traitées. Puis ça, je pense qu'on fait le travail que je pense que les gens s'attendaient. Et je le répète, c'est vraiment à cause du fait qu'on a maintenant l'opinion de la santé publique qui s'est ajustée, mais qui s'est ajustée aussi grâce à l'arrivée additionnelle de vaccins. Maintenant, les personnes handicapées. Les personnes handicapées, l'autre groupe qu'on veut prioriser avant de passer à la population générale, ce sont les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique. Puis là, dans physique, on veut dire une déficience qui est soit motrice au niveau du langage visuel, auditif. On veut être le plus inclusif possible. Ou, je le répète, pour ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Puis on est très, très, très à l'aise d'impliquer ce groupe-là. Maintenant, encore une fois, pour vous donner les chiffres importants, ça représente, ça aussi, un bassin de 250 000 personnes. Alors, tantôt, on a dit qu'on rajoutait à peu près 300 000 personnes pour nos maladies chroniques. Là, ici, on rajoute 250 000 personnes pour ce qui est des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique. Mais la bonne nouvelle, puis étant donné les vaccins que l'on a, on a décidé, puis on est excessivement content de cette recommandation-là, d'y inclure les proches aidants. Parce que un des enjeux qu'on avait, puis on a écouté la population au cours des derniers jours, particulièrement pour les personnes avec une déficience physique ou intellectuelle, c'était comment se rendre soit à la pharmacie ou comment se rendre dans le centre de vaccination pour ceux qui ne le faisaient pas à l'hôpital. Alors, encore une fois, on s'ajuste et on rajoute les proches aidants. Donc, ça veut dire que cette catégorie-là nous fait ajuster non seulement de 250 000 personnes, mais il est à peu près normal qu'il va y avoir un proche aidant pour chaque personne qui va aller se faire vacciner. Donc, cette catégorie-là nous exige de mettre de côté à peu près 500 000 vaccins dans les prochaines semaines. Je le sais que les Québécois ont hâte d'avoir la population en général se faire vacciner. Mais je pense qu'on sait aussi que les Québécois ont fait depuis longtemps des choix difficiles. Puis je pense que de mettre en priorité et de terminer nos personnes les plus vulnérables, c'était le bon choix à faire. Puis c'était surtout le bon choix à faire avec les nouveaux vaccins qu'on a obtenus dans la dernière semaine. Et ce qui nous permet de le faire, puis je termine sur ça, c'est vraiment à cause de la régularité qu'on a vue avec les vaccins de Pfizer qui sont comme une horloge suisse, là, ça nous rentre à toutes les semaines. Maintenant qu'on sait les vaccins supplémentaires, bien, on pouvait prendre cette décision-là. Je voudrais aussi parler un petit peu de la vaccination de masse, parce que je sais que vous avez hâte d'en entendre parler. Vous l'avez vu, nos sites sont prêts, le personnel est prêt, il manque juste les vaccins. Mais je vais laisser M. Paré vous parler un peu de deux belles initiatives qui voient le jour dès la semaine prochaine. Mais avant de lui céder la parole, je veux rappeler comment je pense qu'il est important de remercier les Québécois qui sont au rendez-vous. On avance bien dans la vaccination, mais on veut s'assurer, et je le répète, que nos personnes vulnérables puissent être vaccinées en premier. Je me fie aux Québécois. Je suis certain qu'on va être capable de bien gérer les prochaines semaines. Puis je prends quelques minutes avec Daniel pour une autre belle initiative qu'il va pouvoir vous annoncer.
Bien, merci, M. Dubé. Un peu comme M. le ministre le mentionne, on continue de se préparer pour vacciner tous les Québécois pour atteindre notre objectif là, du 24 juin. Et dès la semaine prochaine, nos premiers sites en entreprise vont débuter la vaccination. On a deux sites qui sont en train de se préparer, d'être rodés. Et c'est quelque chose qui va vraiment augmenter notre capacité de vaccination, qui va augmenter, dans le fond, notre PAC pour s'assurer là, que tout le monde soit vacciné pour atteindre nos objectifs. Deuxième objectif aussi, c'est bien sûr là, d'être capable d'atteindre tous les groupes. Donc, il faut vraiment moduler notre approche de vaccination. Et justement, la semaine prochaine, on va être capable aussi de vous annoncer notre premier grand projet de vaccination à l'auto. Et ça aussi, on croit là, que ça va. C'est une nouvelle façon d'aller rejoindre certains groupes qui, de façon encore là, sans rendez-vous. Fait que c'est deux belles initiatives qu'on croit qui vont vraiment nous permettre encore là d'augmenter notre capacité. Avec les belles nouvelles qu'on a eues hier, vous voyez la vaccination de plus de 80 000, on démontre bien que la capacité, elle est là lorsque les vaccins sont au rendez-vous. Mais encore là, on va être prêt à toute éventualité. On continue d'augmenter en puissance notre capacité pour atteindre nos objectifs. Et encore une fois, si on a d'autres belles nouvelles comme on a reçues là, justement de la compagnie Pfizer, d'ajouts de vaccins, on sera prêt. On sera prêt pour encore accélérer la cadence.
Nous en sommes maintenant à la période de questions. Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour, messieurs. Commençons par la vaccination. Moi, j'ai reçu des messages, je sais qu'il y en a plusieurs. Les gens reçoivent déjà leur date pour leur deuxième dose. Ça tombe en plein été. Ils savent déjà qu'ils ne seront pas là. Là, est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ici? Est-ce qu'ils peuvent changer leur date? Est-ce que ça devient un problème? Les gens vont attendre pour pas que ça tombe dans leurs vacances. Est-ce que c'est un enjeu avec lequel vous devez gérer en ce moment?
D'entrée de jeu, là, j'aimerais quand même souligner là, que la vaccination, là, c'est un privilège. On est en pandémie et on est en train de se faire vacciner, première dose, deuxième dose, pour bien se protéger. C'est pas un luxe. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut mentionner. D'un but logistique, on va s'adapter pour certaines raisons. Pour des gens là, qu'on peut comprendre, là, que ce soit des enjeux pour le travail, des enjeux pour des raisons de santé. Et au cours des prochaines semaines, on vous annoncera des processus là, pour justement changer une deuxième date de rendez-vous. Cependant, je pense que mon premier point là, est important de dire, là, écoutez, là, c'est un privilège de recevoir un vaccin pour bien se protéger, puis je dirais même une responsabilité citoyenne.
Deuxièmement, M. Dubé, pouvez-vous nous faire un petit portrait de la capacité hospitalière Québec, Chaudière-Appalaches, alors que ça fait quand même 3 semaines que à peu près tout est fermé, ça n'a pas l'air d'aller mieux, là.
Bien, vous savez que la première chose, puis on l'explique, puis je suis content d'avoir cette question-là, parce que nos Québécois suivent de très près le nombre de cas. Puis on l'a vu dans la dernière semaine, pratiquement, le nombre de cas a baissé. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous savez que, malheureusement, le nombre d'hospitalisations, puis particulièrement de soins intensifs, suit toujours de 10 à 15 jours les cas qui ont été en augmentation très forte. Puis rappelez-vous que c'est pas si lointain qu'on a eu plus de 400 cas à Québec. Alors en ce moment, je le répète souvent, mais on paye aujourd'hui dans nos hôpitaux ce qui est arrivé il y a 10-15 jours à Québec avec plus de 400 cas. Alors moi, c'est pour ça que la première bonne nouvelle qu'on a en ce moment, c'est de voir la baisse des cas à Québec. Mais avant qu'on voit cet impact-là sur nos hospitalisations puis nos soins intensifs, ça va prendre encore quelques jours. Alors moi, je sais que les Québécois suivent cela de plus en plus. Je pense que les médias nous aident beaucoup à passer ce message-là. Mais je vous demanderais de bien, puis je demande aux Québécois de bien regarder non seulement le nombre de cas, mais avec quel nombre d'hospitalisations et de soins intensifs. Mais si tout, comme dirait quelqu'un de bien connu, si la tendance se maintient, c'est sûr que les cas ont baissé, on devrait avoir une amélioration du côté des hospitalisations puis des soins intensifs. Sauf que, contrairement à la première puis deuxième vague, les variants sont beaucoup plus forts. Alors, nos gens qui rentrent à l'hôpital ou dans les soins intensifs, ils restent un peu plus longtemps que ce qu'on a connu dans la première et deuxième vague. Puis c'est pour ça qu'on apprécie que les Québécois font tellement attention en ce moment, parce que c'est vraiment notre réseau de santé en ce moment qui est mis à mal par ce nouveau variant-là.
Claudie Côté, TVA.
Peut-être une question concernant le variant indien qu'on a détecté au Québec. On sait que ça pourrait nuire aux efforts de vaccination parce qu'il semble qu'il soit plus résistant au vaccin que les autres variants qu'on a connus. On en est où là, dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va mettre en place des mesures particulières, notamment à l'endroit où il a été retracé?
On va écouter notre expert.
Essentiellement, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a été en mesure de détecter ce variant-là. J'ai eu des discussions très spécifiques avec les gens du laboratoire de santé publique. Je voudrais spécifier que c'est un variant indien, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement le même, parce qu'il est de la même famille que le variant indien, mais il n'a pas nécessairement les mêmes mutations que celui qui est observé actuellement en Inde, qui a d'autres mutations à l'intérieur des délétions. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que il vient de la même génération de souches, mais il n'a pas les mêmes mutations. Ce qui se passe en Inde aussi, là, actuellement, il y a de la circulation de ce variant-là, mais il y a aussi eu relâchement des mesures. Il n'y a pas de vaccination nécessairement, de telle sorte que l'impact du variant indien, qui a quand même émergé assez récemment, là, il est sûrement là. C'est sûrement un variant qui est plus transmissible, mais on n'est pas en mesure de le comparer tant que ça. Et toute la question en lien avec la vaccination, c'est un peu encore théorique. On n'a pas encore d'informations précises là-dessus. Ben, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'on ait une attitude agressive d'intervention comme on le fait actuellement, que ce soit un variant indien ou un autre variant. Et à date, la personne pour laquelle on a détecté par séquençage ce variant-là se porte bien, a bien évolué, et toutes les personnes autour ont été contrôlées, sont faites isoler en temps opportun à l'époque, puis on ne semble pas avoir d'autres transmission actuellement. Mais ça pourrait arriver comme tel, et il semblerait même que le variant indien qu'on a trouvé en Alberta ne serait pas la même souche qu'on a nécessairement au Québec. Donc, c'est une situation, première chose, il faut prendre les mesures qu'on met en place sont bonnes pour tous les variants. Les approches agressives qu'on met en termes de santé publique permettent de contrôler la propagation. C'est pour ça qu'on est très agressif. Puis, on a un système qui va être en mesure de détecter par séquençage aléatoire ou dans certaines conditions, des gens qui reviennent de voyage ou des gens qui ont été réinfectés suite à une vaccination, ça va nous permettre de détecter sa progression. Pour le moment, je pense qu'il faut le surveiller, il faut être aux aguets, mais il n'y a pas de mesure particulière, par exemple, à mettre en place dans la ville ou dans le territoire où cette personne aurait pu acquérir le virus. Et c'est encore en investigation.
Merci. Maintenant, je comprends qu'on ouvre pour les malades chroniques. Peut-être une petite spécification. Est-ce qu'il y aura du sans-rendez-vous? Mais ma question, c'est surtout de savoir si on va considérer également les personnes enceintes pour la vaccination en priorité.
Bien, commençons par les personnes enceintes parce que c'est quelque chose que la santé publique qui est en train de regarder. J'aimerais ça que Ratio commente là-dessus.
C'est clair que les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques, par exemple, une femme enceinte qui est diabétique, ou une femme enceinte qui présente une hypertension artérielle mal contrôlée, etc., l'indication est là, elle va être vaccinée, il n'y a pas de problème. Et pour la femme enceinte, ce qu'on demande particulièrement, c'est qu'elle en discute aussi avec son médecin. Il y a des travailleuses de la santé qui étaient enceintes qui ont pu se faire vacciner. Vous savez, quand on a un nouveau vaccin, la femme enceinte est toujours une préoccupation que les gens ont, mais plusieurs autorités scientifiques, notamment gynécologiques ou autres, recommandent la vaccination de la femme enceinte. Mais on va y aller par séquence, par les plus vulnérables actuellement, celles qui ont des maladies chroniques. Puis après ça, les femmes enceintes pourront se faire vacciner par un choix éclairé.
Maintenant, pour votre question concernant la vaccination là, des personnes de maladies chroniques sans rendez-vous, j'aimerais ça que Daniel commente là-dessus.
Oui, on va ouvrir beaucoup de rendez-vous au cours des prochaines semaines pour justement là, s'assurer là, que toutes les personnes qu'on vient d'annoncer là, aujourd'hui, mais que M. Dubé a annoncé, puissent avoir une plage de rendez-vous. On préfère quand même avoir un rendez-vous. C'est une date solide, surtout pour des gens là, qui sont plus vulnérables. Ils savent à quelle heure à se présenter et arriver. Fait qu'on va préférer là, pour ce groupe prioritaire-là de le faire avec rendez-vous.
Pourrais-tu, Daniel, s'il vous plaît, donner les dates là, de prise de rendez-vous pour les deux catégories qu'on a annoncées tout à l'heure, s'il vous plaît?
Très bon point. Donc, l'ouverture pour le groupe des maladies chroniques, dès demain matin, 8 heures, les gens pourront aller sur Clic Santé pour s'enregistrer et prendre un rendez-vous. Pour les personnes du groupe handicapé, Ça va être à partir du 28 avril, c'est mercredi prochain. Même chose, pourront prendre un rendez-vous sur Clic Santé ou appeler aussi le numéro 1-877 qu'on a déjà annoncé là, pour des gens qui ne pourraient pas aller sur le site web et pourront prendre un rendez-vous. Et comme je vous dis, on aura des rendez-vous suffisants là, pour ces groupes-là.
La raison pour laquelle je...
Bon, mais ça se précise. Oui. Valérie Leboeuf, tu retiens quoi?
Bien, évidemment, les deux groupes dont on a parlé, les gens qui ont une maladie chronique, mais sans suivi hospitalier, qui vont pouvoir, dès demain matin, 8 heures, aller sur Clic Santé pour prendre un rendez-vous. Oui. On parle des gens qui ont des maladies respiratoires, diabète, obésité également, mais on se fie à la bonne foi de ceux qui ont une maladie chronique. Donc, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent s'inscrire. Et à partir du 28 avril, mercredi prochain, les personnes handicapées, celles qui ont une déficience intellectuelle ou physique, que ce soit moteur, langage, visuel, auditive, les gens qui sont atteints du spectre de l'autisme également, pourront se faire vacciner, tout comme leurs proches aidants. Ça touche un bassin d'environ 500 000 personnes. Donc, au total, ces deux groupes, ce sont 800 000 personnes qui pourront être vaccinées.
C'est très bien compté. Valérie Leboeuf, merci beaucoup.
Merci.
Luc Lavoie a écouté ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. Luc, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton côté?
Je retiens que la campagne de vaccination va vraiment bien. Je retiens que la montée en puissance, pour reprendre les termes de M. Paré, semble donner des résultats. Écoute, 85 000 doses hier. Et surtout, l'AstraZeneca, il se dit surpris, il dit qu'il n'aurait même pas rêvé que ça aille aussi bien. Moi, je ne le suis pas, Bernard. Je ne suis pas surpris. Ce que je veux dire, c'est que je connais beaucoup de gens là, qui, la minute que ça a été annoncé, là, ils sont partis, là, comprends-tu?
Oui, mais ils craignaient. Moi, je pense qu'ils craignaient que la mauvaise publicité qu'on avait faite
oui,
au AstraZeneca allait décourager les gens. Et visiblement, les gens n'ont pas écouté les prophètes de malheur. Puis ils ont fait la part des choses. Les gens se sont dit, j'ai une chance sur 100 000 de développer un caillot. Garde, je prends cette chance-là, puis je vais me faire vacciner.
Puis si je suis fumeur, j'ai 10 fois plus de chance. Puis si, tu sais, bon, les gens ont fini par comprendre là, que c'était un bon vaccin. C'est un vaccin qui fait le travail très bien. Et que, je veux dire, les gens ont hâte d'être vaccinés. C'est ça que je veux dire, Bernard. Là. Je cherche les mots, là, mais je le sens partout. Il y a une frénésie, puis les gens se voient, puis ils s'appellent au téléphone. Puis, as-tu été vacciné? Ah non, pas encore. Hey, moi, je l'ai eu avant-hier. Et là, aujourd'hui, ce qu'ils nous annoncent, moi, je trouve ça très, très intéressant pour... la semaine prochaine, déjà, la vaccination en entreprise, ça va commencer. Tu as sûrement vu des reportages sur les installations qui ont été mises en place à CAE, entre
oui,
autres.
Oui, oui.
C'est vraiment
CAE, c'est
très professionnel.
CAE, c'est les simulateurs de vol.
Voilà, voilà. Et aussi, vaccination à l'auto. Je l'ai dit depuis longtemps, quand on va arriver à la vaccination de masse, c'est un excellent moyen. Aux États-Unis, ça a donné des résultats rien de moins que spectaculaires. Alors, la vaccination à l'auto, pour compliquer, tu baisses ta fenêtre, puis bing, il te donne ta dose. Alors, moi, je trouve que ça a l'air d'un programme bien conçu, d'un programme bien exécuté par un ministre qui, je l'ai déjà dit, remercions le ciel qu'on ait un ministre de ce calibre-là, pour mener une opération comme celle-là. Moi, je trouve que c'est un gars très rassurant, très intelligent et surtout très crédible. On le sent franc et sincère.
On le sent en contrôle aussi, hein, Luc.
On le sent complètement en contrôle. Ah, il joue vraiment son rôle de leadership d'une magnifique façon. Alors, c'est le genre de ministre là, que quand on arrive dans des grandes circonstances, là, on en veut un comme ça, puis on en a un. Là. C'est un ministre exceptionnel.
Je veux juste te dire, Raymond Filion sur Twitter, le reporter de TVA, donc à Ottawa, qui a dit qui écrit « Le Canada ne recevra pas le million de doses du vaccin d'AstraZeneca attendu de l'Inde ce mois-ci en raison de la situation sanitaire en Inde », dit le fédéral. Bon, moi, je me pose la question.
Pas très surpris, là.
Moi, je me demande si c'est pas une forme de représailles pour la fermeture des vols en provenance de l'Inde.
Ça, je laisse m'en douter.
Qui devrait être annoncé dans les prochaines heures. Je le répète, là, on attend la confirmation, on attend l'annonce. Tu crois que il y a pas de lien compte tenu des relations tendues entre le premier ministre indien et le premier ministre Trudeau après sa visite en Inde? Tu penses que ça a pas laissé de traces?
Non. Et je pense qu'on vit une catastrophe humanitaire en Inde. Et il faut pas se surprendre qu'ils disent, écoute, j'en exporte moins, il faut que je fasse quelque chose. Là. Écoute.
Ah, ils le gardent pour eux. Ils le gardent pour eux.
Ben oui,
ah, ben oui, ben ça a du sens. Ah oui,
ben
tu
oui,
as raison.
Mais je veux dire une chose.
On ferait la même chose.
J'ai vu une image hier qui vaut plus que 1000 mots. Tu sais, des fours crématoires en Inde, avec des grandes cheminées en pierre, qui s'effondrent, les cheminées s'effondrent parce que il y a trop de cadavres qui sont déposés dans ça, ça surchauffe puis ça tombe en morceaux. Alors, quand on parle d'une catastrophe humanitaire, je sais pas, là, mais je pense que c'est en plein de ça qu'on parle ici. Alors, que l'Inde dise, ça vous fait rien, je vais en garder 1 million. C'est un pays, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde, c'est 1,3 milliard d'habitants.
D'accord.
Il faut arrêter l'incendie, c'est incroyable.
Très bien, Luc. On se reparle un peu plus tard. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Lise Ravary. On va parler notamment de cette une. Je ne sais pas si vous l'avez vue, la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Là, je l'ai sous les yeux. Bougez pas. Alors, on voit une photo de Justin Trudeau prise lors de son voyage en Inde. Et c'est écrit, donc on le voit là, le premier ministre, et c'est écrit « Un premier cas au Québec, 3 points de suspension et 39 autres au Canada. Le variant de l'Inde est arrivé. Alors Justin, est-ce qu'on coupe rapidement les liens avec l'Inde cette fois-ci? » Point d'interrogation. Ça a suscité, dis-je, une réflexion de la part de Lise Ravary qui va nous en parler après la pause.